est Marc, c'est Louis Smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Et dans cette double analyse de Friday Night SmackDown et de Monday Night Raw, ensemble, nous allons analyser les deux shows de la WWE. Et pour m'accompagner dès maintenant dans le show bleu, j'ai avec moi l'ami Chris. Salut Chris.
Salut Yann. Salut peuple de Catch Up. Bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu dans cette année 2020.
Ouais. On est en marche direction le Royal Rumble.
Tout à fait.
Mais avant ça, on avait un épisode spécial du Miz TV. Ça faisait longtemps. Le Miz et ses tourments. Il nous fait la petite intro habituelle. Et il a changé, le Miz. Il a changé, mais il le justifie en disant qu'il avait juste un mauvais jour. Ça arrive à tout le monde. Je suis sûr que toi aussi, Chris, parfois, tu as des mauvaises journées comme ça.
Ah,
tu perds ton smile.
On en est tous là.
Donc voilà, il était pas d'humeur. Il n'est pas d'humeur et c'est pour ça qu'il a attaqué Kofi Kingston. Voilà, il s'est laissé un petit peu dépasser et il s'excuse. Voilà, c'est un petit peu le film qui est dans sa tête et c'est compliqué pour lui. Mais voilà, tout ça a une bonne chose finalement, puisque grâce à ce mauvais jour qu'il a passé, eh ben, ça a été marqué par l'arrivée, le retour de John Morrison. Et John Morrison est tout simplement l'invité ce soir de Miz TV, hein, probablement l'invité le plus prestigieux de toute l'histoire du Miz TV, John Morrison. On a droit à un package vidéo qui retrace un petit peu l'épopée de John Morrison, hein, ses nombreux titres, et notamment les titres tag team, hein, qu'il a eu avec le Miz. C'était une grosse équipe, hein, mine de rien, les deux-là.
Ouais, titre tag team, titre intercontinental. Ah, il a eu la hype, hein, John Morrison, à une époque à la WWE.
Ouais, effectivement, t'as dû bien kiffer, toi, de revoir un petit peu ce package vidéo. Il était plutôt bien foutu, hein.
Ouais, mais mine de rien, il est parti quand même depuis 2011, hein, ça fait un bail, hein, qu'il était parti. Hein.
Ouais, moi aussi, effectivement. Et du coup, donc il débarque, John Morrison arrive avec sa petite entrée, un petit peu, hein, il a reproduit un petit peu sa pose d'entrée assez célèbre.
Bon, c'est quasi la même chose, hein. il n'a pas changé grand-chose. Hein.
Non, il a un petit peu pris quelques kilos, mais à part ça, c'est toujours le John Morrison qu'on connaît. Donc il est là, il nous explique effectivement que... Alors, il nous explique que son plan à la base, c'était d'arriver au Royal Rumble, en fait, de faire son retour au Royal Rumble. Ils avaient beaucoup bossé son retour au Royal Rumble, mais voilà, le Miz avait besoin de lui, son pote avait besoin de lui, et du coup, eh ben, il est venu aider son pote. Le Miz, ça fait 15 ans qu'il bosse, c'est un vrai champion, c'est le catcher, le cinquième catcher préféré. Alors, on enregistrait, alors on parle, on enregistrait les awards de catch-up, donc visiblement le père de Morrison a également donné son top et son flop, et le Miz est dans son... Et le cinquième top de catcheur de son père, John Morrison. Mais voilà, le problème, c'est les fans. Les fans n'ont toujours pas compris qui était le Miz, ce qu'il a dû subir. Et du coup, et ben, c'est à cause des fans, tout ça. Le New Day débarque avec Kofi débarque en disant « Hey mec, qui essaye de faire croire tout ça ?» Biggie, il y croit pas. Kofi dit mais voilà, le problème c'est que ok, avoir une mauvaise journée, il n'y a pas de souci. Alors tout le monde s'envoie un petit peu des roses, Miz respecte le fait que Kofi était champion pour 6 mois et que ça lui a pris que 6 secondes pour perdre le titre et visiblement ça l'a pas marqué plus que ça, et Kofi le corrige en disant mec non, c'était 8 secondes et en fait t'es devenu, avant t'étais cool mais maintenant t'es juste ennuyeux. Et ça se termine là-dessus, c'était un petit peu étrange. Il n'y a pas vraiment eu de gros momentum à ce moment-là. On est passé sur un match entre les deux, Kofi Kingston versus The Miz, avec Biggie et Morrison qui étaient au commentaire. D'ailleurs, on n'a pas parlé beaucoup du match au commentaire. Hein. C'était plus une passe d'armes entre Biggie et John Morrison. Et à la fin, Morrison qui se retrouve un petit peu embarqué dans le mix, hein, dans l'équation, Biggie également. Et alors que le Miz prend la tête avec Biggie, Morrison en profite pour attaquer Kofi et le Miz place son skull crushing finally pour la victoire. Retour de John Morrison et un retour qui fait du bien au Miz puisque le Miz gagne ce match. Est-ce que c'est un retour gagnant pour l'ancien partenaire du Miz.
Ouais, c'est un retour un peu mi-figue, mi-raisin à mon goût, quoi. C'était pas ce Miz TV là, c'était pas super folichon. Ouais,
Un peu rouillé, le
peut-être un peu
Maurice Sagan.
rouillé, et puis je sais pas, c'était peut-être pas la meilleure solution pour le faire revenir. Je pense qu'il aurait pu avoir plus d'impact, mais enfin bon. Du coup, après derrière, on a un match plutôt sympa, voilà, plutôt divertissant pour le coup. Mais moi, finalement, ce qui me pose question, c'est donc John Morrison, il revient là. On a l'impression que c'est parti pour refaire une tag team entre le Miz et Morrison, donc ils vont intégrer la tag team division, j'ai l'impression, dans un premier temps.
Ouais, c'est très probable, effectivement. Ils sont pas
Un
en fait d'une idée pour rien.
match d'annoncer pour cette semaine déjà là. C'est quoi? C'est Morrison contre qui la semaine prochaine? Là, c'était Miz Coffee et du coup ça sera contre
Bah,
Biggie,
sûrement
ouais, ça
contre
sera
Biggie.
Morrison Biggie la semaine prochaine. Je suis surtout curieux en fait de le revoir dans le ring, John Morrison, pour voir un peu qu'est-ce qu'il va développer comme moveset par rapport à ce qu'il faisait à la TNA ou à la Lucha Underground en particulier. Et moi je suis intéressé par son retour, mais si tu veux, là sur cet épisode de vendredi, j'ai trouvé ça très plat et pas un intérêt fou.
Ouais. Non, c'était assez. Je suis d'accord avec toi, je suis un petit peu déçu aussi. Tout le monde était un petit peu rouillé, un petit peu fatigué. Il n'y avait pas vraiment d'excitation autour de ce retour. L'épisode de Miss TV était un petit peu plat. Il n'y a pas vraiment de. Les fans n'ont pas trop accroché. Tu sentais que les mecs étaient contents de se retrouver, mais voilà, c'est un petit peu, voilà, un petit peu de rouille là pour le retour de Morrison. Mais bon, je pense que tout le monde va retourner dedans. Et puis surtout, cette jolie intervention qu'il a faite là, le prince du parcours qui a fait sa petite acrobatie depuis les escaliers, qui a été très mal filmé une fois de plus. Les réalisateurs qui comprennent rien à ce qui se passe quand même. Il a fallu nous montrer un replay pour qu'on voit un petit peu la pirouette galipette là de Morrison. Voilà, je pense que ça va être pas mal hein, surtout dans la Tag Team Division. On tape suffisamment sur la tête de la division Tag Team à SmackDown pour pas trop faire la fine bouche. On va voir ce que ça va donner.
Une équipe Miz Morrison, ça peut envoyer, hein, ça peut être sympa, quoi. Et puis au final, ils ont réussi, ils ont rempli leur objectif dans ce segment. Ils ont eu l'adhésion de la foule pour leur illitude. Ils ont eu droit à des gros chants You suck. Donc je
Ouais.
pense que c'était le but recherché. Donc voilà, donc Morrison se place directement dans la case heel en arrivant. Donc écoute, pourquoi pas. En tout cas, ça fait une équipe de heel bien. Bien intéressante malgré tout sur le moyen terme.
Petit fil bleu qu'il a eu tout au long de cet épisode de SmackDown concernant cette rivalité entre Bray Wyatt et Daniel Bryan. On a un épisode de la Firefly Funhouse. Bray Wyatt nous aime tous et c'est un amour spécial, mais le Fiend n'aime pas Daniel Bryan parce que c'est quelqu'un qui n'est pas très gentil, Daniel Bryan. Et le Fiend veut lui faire du mal et nous explique qu'il nous aime. Mais pas Daniel Bryan. Dans cet épisode de la Firefly Funhouse. Un petit peu plus tard, Daniel Bryan est interviewé. Il nous explique que Daniel Bryan se souvient bien de tout, contrairement à ce que dit Bray Wyatt. Parce qu'on a eu des petits flashs hein, de l'épisode Wyatt Family de Daniel Bryan. Mais Daniel Bryan il explique que le film n'est pas trop, puisque le film bah, il veut changer les gens et que Daniel Bryan ne veut pas changer. En tout cas, il a changé, mais il n'a pas changé comme le film l'aurait voulu. Et on a le Rambling Rabbit qui apparaît sur l'écran et il dit « Ouais, je connais un secret pour battre The Fiend. » Ça, c'était plutôt pas mal. J'ai trouvé une petite addition sympa. Mais Bray Wyatt donc s'empare de la marionnette. Et un petit peu plus tard, Daniel Bryan retrouve le corps sans vie
Défiguré.
du Rambling Rabbit défiguré. Il manquait un morceau de sa tête. Il était tout violet. Bon voilà, on est toujours un petit peu dans le grotesque là avec la Firefly Funhouse, mais bon, on continue sur cet angle de Daniel Bryan qui une espèce de bataille un petit peu psychologique hein, entre les deux personnages. Est-ce que tu accroches toujours à cette rivalité?
Ah ouais, complètement. Alors là, moi je suis fan. Voilà. Daniel Bryan, écoutez nos awards, notre Champion of the Year à catch-up.
Yes.
Et voilà l'American Dragon, voilà, dans quelques segments, comme ils ont l'habitude de faire là maintenant depuis plusieurs mois avec le Fiend. Non, non, moi j'accroche complètement. Il me tarde de voir le match du pay-per-view du Royal Rumble parce que je pense que ça va être saignant cet affrontement Daniel Bryan-Bray Wyatt. Nos deux catcheurs, hein, mine de rien, sur le podium des awards. Donc, non, franchement, moi cette rivalité m'intéresse depuis le début et ça continue. Voilà, franchement, c'est vraiment du tout bon. Et il me tarde ce Royal Rumble.
Ouais, effectivement, je suis assez d'accord avec toi. J'ai beaucoup aimé, voilà, ce petit personnage de Henry Rabbit qui nous dit que lui, il sait comment battre The Fiend. Donc, visiblement, il y a un moyen de le battre. Et c'est le petit lapin qui sait.
Il nous a teasé un secret, quoi. Il y a un secret concernant le film. Voilà, et concernant le film, il y a un point de faiblesse.
Qu'est-ce qu'on a eu un petit peu? On a eu la division féminine avec Mandy Rose et Sonia. Mandy Rose se prépare pour son match. Elle a un gâteau, visiblement. Ouais. Ça a dû te faire plaisir. Un gâteau qu'elle offre à Otis de Heavy Machinery. Que c'est sa maman qui l'a fait ou c'est Mandy Rose qui l'a fait, je ne sais plus.
Moi, je ne sais plus non plus, je t'avoue.
Mais c'est un petit gâteau avec un petit caterpillar. Un petit
Quand
caterpillar.
Mandy Rose apparaît à l'écran, j'ai des problèmes de connexion de neurones, moi. Donc,
Ah ouais, mais j'ai beaucoup aimé moi cet angle-là, enfin cette petite séquence. Ça m'a fait.
c'est plus Otis qui me fait marrer que Mandy Rose, quoi.
Ouais, mais j'aime bien la. Pour l'instant, j'aime bien l'interaction entre les deux. Mandy Rose a battu Alexa Bliss grâce à l'intervention justement d'Otis, qui visiblement a un petit peu fait exprès d'intervenir dans ce match-là pour un petit peu justement provoquer la distraction. Et du coup, il y avait visiblement les deux ont fini par se trouver là.
Ah ouais, je pense que c'était complètement voulu de la part d'Otis, je pense, cette intervention dans le match. Voilà. Alors par contre, c'est un peu bizarre parce que l'alignement, on a Otis, Tucker qui sont des faces et puis on a une Mandy qui est censée être heel. Donc je sais pas où ils vont vers cette romance, voilà, entre les deux. Bah, moi, voilà, je ne fais que confirmer semaine après semaine. Mandy Rose a beaucoup trop d'antenne à mon goût. Et bon, c'était, ouais, c'était bof, quoi. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a pas du tout emballé. Ça m'intéresse pas plus que ça. Tout ce qui tourne autour de Mandy Rose, de toute façon, ouais, voilà, elle a gagné le match. Ouais, tant mieux pour elle. Et puis, écoute, on verra bien où ça va nous mener. Hein. Peut-être un futur mariage pour l'année 2020. Après Lana
Ah,
et Lashley, peut-être qu'on va vers un mariage Otis-Mandy. Alors là, il manquerait plus que ça. Madame Plastique.
attention, ouais, parle pas trop à voix haute parce que ça ne pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Hein.
On ne sait jamais, ouais.
Bailey était là aussi.
Droopy Bailey!
Droopy, notre ami Bailey, elle nous explique que Sasha Banks ne sera pas là ce soir pour son match.
De Sasha Banks, voilà, c'est bien. Elle vient pas pour parler d'elle, elle vient pour parler de sa copine.
Eh bah oui, parce que c'est la championne, n'oublions pas, hein, c'est Bayley, hein, c'est pas Sasha Banks, ok, ou effectivement, c'est pas clair. Ce soir, elle était censée avoir un match Banks contre Lacey Evans, mais Sasha Banks a préféré aller enregistrer son album de rap à Los Angeles. Avec son cousin.
Eh ouais, Snoop!
Snoopy, mais toi,
Il y a de la bonne mexicaine.
parce qu'il y a de le dire, hein, Snoopy, Doggy Dogg, là, Bayley, c'est Snoopy, tout ça c'est lié, hein, finalement, à mon avis, c'est une construction sur plusieurs années, là.
Snoopy, Droopy, tout ça, c'est même combat, même famille.
du coup, Lacey Evans dit bah viens Bailey t'as qu'à te battre. Bailey fait non et puis quoi encore? Et puis il y a une petite bagarre backstage entre Lacey Evans et Bailey. On en restera là.
Ouais, ben Lacey Evans, c'est très bien. Bah, écoute, j'étais très content de ce qu'a fait Lacey Evans. Donc, au final, voilà, qu'elle fasse taire, qu'elle prenne le titre, ben, Lacey Evans, là. Parce que là, ça. Mais la semaine prochaine, elle va affronter Sasha Banks. Donc, en fait, on n'y comprend rien. C'est Lacey Evans, tu te bats pour le number one contender ou en fait, il n'y a que Sasha Banks qui t'intéresse?
Ouais, c'est pas très clair.
Et t'as Bayley au milieu qui fait coucou, coucou, je suis là! Bon, c'est, je sais pas, vraiment c'est triste, hein. À SmackDown, le règne féminin du titre suprême, il est vraiment mal géré et c'est vraiment pour l'instant, pour moi, c'est un des gros crashs de ce début d'année 2020.
Ouais, non, c'est ouais, gros fil, pourquoi pas refiler la ceinture à Lacey Evans.
Mais oui, on file la ceinture à Lacey Evans et puis voilà, on aura du Marine et du USA pendant quelques semaines et puis
WrestleMania, ça sera magnifique, là. Elle
voilà, ça
arrivera sur
sera.
le tank de Rousseff.
Ouais.
Qui est resté au parking, hein, il est toujours au parking, ce qui paraît le tank. Bah, j'espère que tu as trouvé le smile avec ce petit match entre Nakamura et Braun Strowman.
Un peu plus, un petit peu plus de smile, ouais, ouais. Après les deux segments consécutifs, là, ouais. Déjà, ça m'a redonné un petit peu le sourire.
Sami et Cesaro étaient là,
ouais.
Toute la faction hein, du super manager Sami Zayn.
Team Zayn.
Ouais, mine de rien. Braun qui déroule ses gros coups, Nakamura qui essaye tant bien que mal de s'en sortir, Sami Zayn qui fait des distractions auprès de l'arbitre, Cesaro également qui intervient, Braun s'en débarrasse, Nakamura qui s'apprête à utiliser sa ceinture pour attaquer le monstre parmi les hommes, mais Braun Strowman qui contre, qui place son power slam pour la victoire. Un match ok, un match qui nous annonce un rematch pour le titre au Royal Rumble. Est-ce qu'on...
Je crois bien là.
Ouais.
Je crois que là, je crois que vraiment. Puis il a soulevé la ceinture. Et ça, c'est jamais anecdotique en catch. Donc à partir du moment où tu soulèves la ceinture, même si tu dis pas un mot, t'es challenger officiel, tu vois. Et donc je pense que le Braun là il s'est placé directement dans la course au titre. Écoute, bah moi j'ai trouvé pas mal ce match, c'était assez court, mais j'ai trouvé Nakamura assez bon, totalement valeureux et résistant face à la différence de gabarit. Et je trouve Nakamura pas mal depuis les Survivor Series. Et finalement, et bah, bon, le Braun Strowman, comme ils n'arrivent jamais trop à le placer, où est-ce qu'on le met en main event, en destruction totale, en comédie wrestling, en heel, tu vois, lui, il est passé un peu par tous les états. Donc, on passe par une ceinture intermédiaire, on passe par le titre intercontinental, pourquoi pas.
Ouais. Ça me paraît quand même un peu bizarre. En fait, Braun Strowman, j'imagine tout sauf avec la ceinture intercontinentale. C'est bien dans ma tête, cette ceinture intercontinentale, elle va pas à des grands Golgoth, toi, mais bon.
Ah, quand même, t'as eu le Big Show, par exemple, qui a été champion intercontinental. Il y a eu quelques powerhouses.
Oui, bien sûr. Oui, il y en a eu, mais c'est tellement une ceinture un peu plus... Enfin, je sais pas, elle est un peu considérée comme une ceinture un peu, toi, des techniciens, des grands catcheurs, oui. Voilà...
C'est une ceinture mythique par rapport à ça. Hein. C'était dans les années 80, il y avait vraiment un distinguo par rapport à ça, ouais.
T'avais la
ceinture mondiale et puis mais la ceinture intercontinentale, c'est clair, t'as tout à fait raison. C'était vraiment les techniciens, les gros catcheurs in ring, les grands catcheurs in ring. C'était des mecs comme Ricky Steamboat, comme Macho Man, tu vois. C'est voilà. Et je pense que sur le catch, sur l'alignement du catch au 21e siècle, c'est un peu différent, quoi. Ça a vraiment pris le nom de ceinture intermédiaire, hein, tu vois. Cette appellation-là, elle n'existait pas dans les années 80-90 de ceinture intermédiaire. C'est vraiment venu plus tard. Et bon, bah voilà, c'est Braun Strowman qui se situe là. Écoute, à vrai dire, est-ce que tu as vu d'autres challengers sur la ceinture intercontinentale à part Braun depuis quelques semaines?
Non. Ils ne sont jamais vraiment décidés. Il y en a eu. En fait, il y a eu plein de beaux challengers potentiels qui ils sont jamais allés, quoi.
Avant Strowman, c'était qui le dernier challenger à la ceinture intercontinentale de Nakamura là? J'arrive même pas, tu vois.
Ouais, là, tu me poses une grosse colle.
Peut-être Ali? Oh, je suis même pas.
À une certaine époque, oui. Ali était tout au début quoi, du règne de Nakamura, mais malheureusement, ils sont jamais allés vers un vrai match entre les deux, et c'était très très dommage, justement, toi. Ali, t'avais eu aussi Andrade, mais c'était un petit peu plus ancien, ça.
Ouais, c'est plus ancien, ouais. Ouais. Non, mais tu vois, on a du mal à savoir un peu qui étaient les challengers de Nakamura parce que voilà, le titre a été traité de manière assez particulière. Et du coup, on a un Braun Strowman qui termine le nez en sang. Nakamura a quand même réussi à lui placer un ou deux coups un peu stiff. Mais bon, écoute, moi, ça m'intéresse. Ça me fait pas grimper au plafond, c'est sûr, mais ça m'intéresse quand même. En tout cas.
Ouais, la chimie entre les deux fonctionne bien. On a une belle faction là de heel, très fourbe. Face à un grand Golgoth, du coup, qui a un petit peu de mal, qui galère un petit peu parce que les autres font que des sales coups, donc la formule fonctionne.
Ouais. Et puis à 3, là, comme ça, ils peuvent faire du dégât, ils peuvent faire du dégât sur Strowman, quoi, de toute façon.
Ouais, c'est là, ils se bouffent le ring post, là, ils se prennent le turnbuckle dans la tronche, et à partir de là, c'est la bascule, donc c'est plutôt simple et efficace. Sheamus nous fait une petite promo en nous expliquant pourquoi il a attaqué Shad Gable, tout simplement parce qu'il est petit et qu'il a besoin d'être supprimé de. La surface de la Terre. Mais il avait raison, il est d'accord avec Chad Gable, hein. Il accepte qui il est, et Sheamus, eh ben, c'est le chaos, tout simplement.
Ouais.
On continue, direction le main event, tout simplement.
Bah,
mine de rien, on y arrive. Roman Reigns. 2019, ça n'a pas été facile pour Roman Reigns. Il a été un petit peu pris par le surnombre. C'est vrai, n'empêche, on se souvient de cette histoire de leader de locker room, mais à plusieurs reprises, le locker room n'est jamais vraiment venu l'aider. Et cette fois-ci, il a eu un vrai soutien, c'était la famille. Quand rien ne va plus, quand on est au fond du trou, quand on se retrouve à manger de la pâtée pour chien, qui sait sur qui on peut compter, c'est les incous, c'est les cousins.
C'est la base, la famille.
Qui n'explique simplement que cette année, grâce à ces incous, Jimmy et Jay, il va gagner le Rumble, il va aller faire le main event de WrestleMania pour la 5e fois. Les Ouzo débarquent, ils sont chauds bouillants, ça fait plaisir là, les retrouver au micro. Il nous explique que ça devient Friday Night Lockdown. Alors, c'est très drôle, hein, parce que les déboires judiciaires subis par les Ouzo toute cette année. Ils ont quand même gardé leur gimmick de taulier de la division de SmackDown. Ils s'en prennent à Queen Corbin, la reine Baron Corbin. Quel manque de respect. Quand on ne respecte pas Roman Reigns, on ne respecte pas toute la famille samoane. Corbin et Dolph débarquent, ça se chauffe un petit peu et on a un petit match ce soir entre les Uso, King Corbin et Dolph Ziggler. Un match qui sera marqué par le retour, l'arrivée des Revivals qui débarquent et qui repartent aussitôt. Roman Reigns débarque aussi, moi je pensais qu'il était là, mais en fait pas du tout. Roman Reigns donc qui couche les Revival qui étaient venus prêter main forte à Corbin et à Ziggler, mais surtout donc la victoire des méchants, puisqu'on a Corbin par DQ effectivement, et surtout après le match on a le retour du fumeur de joint Robert Roode. Visiblement qui en a profité pour aller à la salle.
Ah ouais, Robert Roode, 43 ans, le Canadien, fit comme jamais.
Ouais. Spinbuster sur Roman Reigns, sur la table, Dolph Ziggler, la descente de coude pour passer le chien complètement à travers la table des commentateurs, et c'est bel et bien les méchants qui gagnent la partie, puisqu'ils remportent le match, et ils sont vainqueurs à la fin, on ne voit que retour gagnant pour le Canadien.
Ouais, retour gagnant pour le Canadien. Canadien dans une shape incroyable. Mais bon, écoute, c'était pas trop mal. Petit tag team match, toute interaction, le retour de la famille. Ouais. Un Roman Reigns qui a envie de péter des gueules, qui annonce des objectifs en ce début d'année, là, qui va tout péter au Royal Rumble, qui va tout péter à WrestleMania, qui va tout péter partout. Donc moi, je suis assez pour, quoi, surtout après son année super honorable qu'il a passée en mid-card 2019. C'est bon là, c'est pas mal là, qui se pose en patron de SmackDown là, ça me plaît bien. Et après le match, le match, en fait, ce qui fait plaisir, c'est de revoir les Ouzo dans le ring, hein, toujours efficace, toujours quand même en bonne forme. Je les ai trouvés même un peu amaigris et tout, peut-être pas, ils ont pas été à la salle comme des dingos comme a pu le faire Robert Roode apparemment pendant un mois. Mais en tout cas, suffisamment en forme pour nous sortir un match de qualité en main event de ce SmackDown. Donc écoute, c'était pas mal. Et puis il y a pas mal d'overbooking, hein, tu l'as dit. Les Revival qui débarquent, retour de Roode, cassage de gueule sur les tables de commentateurs. C'était intéressant. Quoi. Ah, c'était Break the Big Dog, la mission de Ziggler, Roode et Corbin pour ce main event de SmackDown.
Ouais, non, il y a une belle dynamique. Hein, de faction là, hein. Effectivement, avec le retour des Ouzo, qui finalement, après, pensait avoir repris la main, et finalement, le même soir, t'as Robert Roode qui revient. Donc, on a une belle. Ils savent faire sa façon en général, voilà, la WWE.
Ouais, et puis, à mon avis, c'est que ça protège aussi Roman Reigns. C'est-à-dire que Roman Reigns, en fait, il va être lancé dans une rivalité jusqu'au pay-per-view du Royal Rumble à plusieurs, avec la famille, avec la troupe de Hill, là. Et du coup, il n'a pas besoin de s'intéresser à quelque ceinture que ce soit. Et il va attendre le vraiment au pay-per-view du Royal Rumble là, pour mettre un grand coup de poing sur la table, le Roman Reigns.
Ouais, Roman Reigns. Alors par contre, Roman Reigns, il m'a peur. C'est difficile. La comparaison avec les Ouzo en termes de promo et tout, c'était un petit peu compliqué. Hein.
Ouais, ça, je suis d'accord. C'est toujours son point faible, hein, de toute manière.
Ah ouais, ça, j'aimerais vraiment qu'il y travaille, quoi. Qui travaille ça?
Il a le public avec lui comme il l'a jamais eu depuis, mais là, depuis un an, il a le public avec lui. Là, depuis février, c'est ça, février, son retour, ou mars, je ne sais plus, mars. Là, il a le public, il faut qu'il profite de la hype qu'il a
Ah
auprès
ouais.
du public,
Faut
quoi.
vraiment qu'il garde, qu'il mette vraiment de l'intensité dans ses promos. Faut pas qu'il, voilà, on va pas lui demander de, parce qu'il n'y arrivera jamais de toute façon, c'est pas son truc, de faire des grosses promos d'un quart d'heure, mais juste un mec qui veut se battre et qui a, voilà, qui est motivé et qui a de l'intensité, quoi.
Et puis là, il bénéficie d'une vague super importante. C'est que là, il a l'appui, c'est le super-héros des enfants. Il a l'appui du public des enfants dans les salles. Ça paraît un détail comme ça, mais en réalité, les Let's Go Roman, écoutez bien les cris, etc. C'est souvent crié par des enfants comme ça l'était à l'époque de John Cena. Il est un peu dans la case en ce moment, voilà, super-héros des enfants. Il fait plein d'œuvres de charité, de trucs pour les enfants cancéreux, pour les ceci. Il apparaît dans plein d'émissions américaines. Mais assez mainstream sur justement ces combats-là et tout ça. Et ce gars, mine de rien, il gère bien sa campagne de com en dehors des rings. Et du coup, bah, ça se ressent avec le public enfant dans les salles. Et
Ouais.
ça paraît con, hein, comme ça, hein, mais ça a contribué aussi largement à ce regain de popularité et que du coup, les adultes le respectent un peu plus aussi par rapport à tout ce qui s'est passé avec sa maladie et tout ça, et que nous-mêmes à Catch Up, on l'a reconnu bien, c'est que voilà, Roman Reigns, il a fait une année en mid-card en 2019, mais il a fait une bonne année, et il a su rebosser, quoi, il a travaillé, quoi.
Ouais, il faut. Non, c'est ça. Enfin, clairement, il a retrouver une sorte de légitimité, si je puis dire, c'est un grand mot, toi, mais il a refait ses preuves, quoi. Il a refait ses preuves. C'était un peu le grand test. Bon, voilà, je reste un petit peu mitigé sur un peu craintif sur la façon dont ils vont transformer, faire la bascule, toi.
Ouais.
Comment on va vraiment faire la bascule, le remettre sur la scène main event et comment il va tenir cette scène du main event. Parce qu'effectivement, comme tu le dis, les enfants sont derrière lui. Il a regagné l'appui du public, mais attention à pas retomber dans les travers de ce qui lui avait coûté justement cette affection du public.
Et ouais, je suis d'accord avec toi.
Il faut voilà, il faut aussi qu'il nous offre des gros matchs, de l'intensité et qu'on essaye de pas trop l'engluer dans un rôle un peu trop complexe, quoi, où effectivement on lui en demandait beaucoup et surtout on lui écrivait des promos vraiment très mauvaises. Et voilà, non, il faut l'intensité, un mec qui veut se battre et puis voilà, qui nous débarrasse des grands méchants.
C'est pour ça qu'en 2019, je trouve qu'ils ont bien géré son cas et qu'ils y sont allés progressivement avec lui après son retour et tout ça. Il a bénéficié de différentes choses. Je l'ai dit, les enfants, mais il y a eu aussi tout ce qui s'est passé autour du Shield, avec le départ de Dean Ambrose, le fait aussi que Rollins sur 2019, lui, il a roulé sur le 2019 en étant dans tous les openers, tous les main events, tous les pay-per-view. Il a tenu le titre suprême. La WWE avait mis un billet, voilà, sur Seth Rollins en 2019. Lui, il revient derrière tout ça après une année comme ça en mid-card. Il rattaque 2020 et dès là, tu vois, le deuxième épisode de SmackDown, bam, il envoie du lourd. Donc, je pense que c'est ça. Je pense que le Big Dog est là de retour dans le main event, dans les main eventers en tout cas sur 2020. Là, je pense que là, c'est un message clair et net qui est envoyé.
Ouais, bah, de toute façon, tu peux pas avoir Roman Reigns dans ton roster et pas en faire un main eventer. Enfin, indépendamment de si que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, ces mecs, il a toutes les cartes. Enfin, il a enfin, il a tout pour être sur le. Enfin, sur main event. Tu peux pas ne pas le mettre en main event, ce mec-là. Donc voilà. Ils ont trouvé, voilà, leur solution, c'était de le faire revenir par la petite porte, on va dire. Et effectivement, ça va être compliqué en 2020 de ne pas remettre Roman Reigns tout en haut de l'affiche, tout simplement. En tout cas, c'est comme ça que c'est terminé cet épisode de SmackDown. C'est l'heure de passer au mot de la fin. Mon ami Chris, si tu veux bien nous partager ton flop, ton top et ta note, s'il te plaît.
Bon, c'était pas un SmackDown qui m'a emballé des masses. Vraiment, fou. Que ça soit du
Ah
Miss
ouais.
TV, ah ouais. Les matchs, tout le truc, toute la ligue, la division féminine, pardon, je vais y arriver. Voilà, enfin, il n'y a vraiment pas grand-chose en termes de catch. Il n'y a pas eu, voilà, à part le Braun Strowman Nakamura qui était pas trop mal. Pff, ouais. Ouais, le flop, je vais le mettre. Ouais, je rattaque l'année 2020 comme j'ai fini les awards. Je le donne à Mendy. J'en ai trop marre. Je veux voir autre chose. Je combine à Mendy Bailey, quoi. Voilà, comme on a fait aux awards. Parce que vraiment, la division féminine pour moi à SmackDown, elle se perd. Elle se perd dans les limbes. Et je suis assez triste de voir ça. Et vraiment, il va falloir un coup de fouet énorme à SmackDown. Il va falloir des grosses arrivées de NXT, moi, je vous le dis. Et il va falloir que ça saigne là, parce que là, vraiment, chez les filles, ça va pas du tout à SmackDown. Donc voilà quoi. Donc, ouais, flop à la division féminine de SmackDown. Mon top, je vais le donner au main event. Je vais le donner justement à tout cet angle-là. Tu vois, tout ce qu'on vient d'expliquer avec Roman Reigns, avec ce trio de heel là, le retour de la famille, tout ça, ouais, ça m'a bien plu. Ça faisait terminer le main event avec un petit tag team match Playa Baby. C'était pas mal. Donc je vais donner mon top au main event. Et ma note, je vais lui mettre qu'un. Je vais lui mettre qu'un 2,5. Je vais lui mettre la moyenne.
Bah écoute, ça se tient, ça se tient. Moi, en ce qui me concerne, mon flop, je vais le donner effectivement à Bailey. Là, c'était, enfin, même quand Sasha Banks n'est pas là, c'était limite l'occasion de qu'elle fasse quelque chose et qu'on la voie et qu'on l'entende. Et en fait, Sasha Banks n'est pas là. Et qu'est-ce qu'on fait? On la fait se sauver et éviter toute interaction, quoi. Parce que attention, c'est la championne. Il faudrait surtout pas qu'elle interagisse avec le reste du roster. Donc non, ça c'est pas possible de faire ça. Et mon top, je vais le donner à Rambling Rabbit, qui a tout simplement connaît le secret de The Fiend, mais ça lui a coûté tout simplement une partie de sa tête. Donc le sacrifice du Rambling Rabbit, voilà, je propose. 2 secondes de silence en mémoire de ce petit lapin qui visiblement en sait beaucoup plus que nous sur The Fiend. Les 2 secondes sont passées. Mon top, enfin ma note, ça va être allez, un 3, parce que j'ai passé un bon moment. C'est un plaisir de revoir John Morrison, notamment, même si tout ce petit monde est rouillé, donc il va falloir rapidement repartir dans le bon sens. C'est un épisode, ouais, effectivement, assez moyen, qui n'a pas brillé par ce qui s'est passé entre les cordes. Mais avec voilà, quelques histoires qui ont continué de se développer. Et après ce SmackDown d'exception, mon beau Chris, nous allons parler de l'épisode de Monday Night Raw qui a suivi, si tu veux bien, avec Randy Orton qui a ouvert le show. Randy Orton qui a fait une espèce de bain de foule. Là, est-ce qu'on n'était pas dans la ville de Randy Orton ce soir?
Non, on n'était pas dans le Kentucky là, ou un truc
Si,
comme
t'as
ça.
raison, Kentucky,
C'est
donc
ça,
c'est pas
c'était
du.
la patrie du colonel Sanders?
Ouais, bah écoute, je sais pas. C'était visiblement, ils sont plutôt fans de Randy Orton. Parce qu'il a eu un beau match de foule, là, il a fait sa pause et tout.
Gros hommage du public pour Randy Orton.
Voilà.
Je sais pas à quoi c'était dû, effectivement.
Ouais, non, mais j'ai trouvé le public plutôt bon, en tout cas dans la première moitié. On en reparlera un peu plus tard avec une grosse séquence qui a impliqué notre champion WWE. Mais en attendant, c'est bien Randy Orton qui est là. Il refait sa pause. Il nous parle de ce soir. Il a un match avec AJ Styles. AJ Styles qui justement débarque. Il n'est pas content. Il dit que c'est bien lui qui va gagner le Royal Rumble et non pas ce fief personnage de Randy Orton. Et surtout, il se gargarise, il se complaît en disant que son RKO. Des gens sont allés voir AJ Styles et ont dit, écoute, ton RKO, il est plus phénoménal que celui de Randy Orton. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais c'est vrai qu'il avait fait un beau RKO.
Ah, il avait fait un super travail de copycat lundi dernier dans son match face à Tozawa, où il avait reproduit tout le moveset de Randy Orton, et effectivement ce RKO était, ma foi, de fort belle facture.
Là, après,
Après, il y a le bel homme.
y a le bel homme qui arrive, Drew McIntyre, qui s'invite
Voilà.
dans la soirée. Il dit que bon voilà, il a passé il a passé quelques semaines un peu costaud, voilà. Et surtout, il veut passer voilà, au niveau supérieur.
Ouais, ouais, il est honnête, hein, il dit qu'il a défoncé du jobber, qu'il a fait du handicap match, qu'il a démonté tout le monde, et que bah, là, maintenant, il vient se frotter à la crème de la crème de la crème de l'élite.
Ouais. Et il nous fait une vanne, mais j'en peux plus. Franchement, ça, si ça, c'est pas du face turn, enfin, en tout cas, on assoit complètement cette position un peu de twinner là, de Drew McIntyre, quand il nous fait ah bah tiens, je savais pas que c'était un concours de qui avait le plus gros RKO.
Ouais.
Sauf que, et là, il fait c'est le Claymore le plus gros.
Voilà.
Qui a la plus grosse.
Exactement. Non, il est trop bon, ce Drew McIntyre. Il est trop bon, les coussins.
Il nous a fait le petit coup là où il demande l'avis du public. Option 1, vous voulez qu'on reste ici à parler pendant des heures, ou option 2, vous voulez qu'on se foute sur la gueule? Et le public bah, fait bah, option 2.
Bah ouais, option 2 direct, hein. On cherche même pas à comprendre.
Du coup, on a eu un gros match, une triple frite pour commencer, avec intervention évidemment de Luke Gallows et Karl Anderson. Je sais plus s'ils se font virer d'ailleurs pendant le match.
Il me semble, ouais.
Il se bouffe un Claymore Kick et un RKO en tout cas. McIntyre donc se place une grosse German souplesse sur AJ Styles et Orton depuis le haut des cordes, je crois. L'Écossais essaie de placer sa Claymore, mais Orton place un dropkick. Orton et Styles donc s'affrontent pendant que McIntyre est un petit peu sonné là à ringside. On utilise un RKO, mais Orton l'évite. Là, Orton, qu'est-ce qu'il fait? Un Styles Clash.
Eh ouais! Excellent!
Oh la vache! Oh putain, il devait être pas rassuré les deux, parce que Styles Clash, bon, il était. Il s'en sort. AJ Styles, il kick, hein, il kick out à deux, hein, je crois, hein, c'est ça? Hein.
Ouais.
Orton place son RKO et McIntyre en petit filou. Un petit filou, Claymore kick sur la vipère, et il vole la victoire, si je puis dire. Hein.
Mais ouais.
Il l'a pas démérité non plus. Donc une grosse victoire de Drew McIntyre qui frappe fort dès l'introduction de ce Monday Night Raw.
Grosse victoire de prestige du psychopathe écossais, quoi. Clairement, là, hein, dans un opener de gros calibre là, avec du champion du monde à qui mieux, voilà, du multititré là on avait sur le ring, et parce que mine de rien Drew McIntyre il a été Intercontinental Champion et il a été champion tag team, donc si tu rajoutes à ça les palmarès des deux dinosaures que sont AJ et Randy Orton, un grosse victoire de prestige pour le Drew, quoi, pour le bel homme.
Ouais, je sais pas qui avait la plus grosse, comme le disait Drew McIntyre, mais elles étaient toutes énormes ce soir.
Ah ouais là, c'était posé sur le ring et pff, voilà. Ça faisait son poids
à se la renifler les... Une grosse cigare et tout, hein, les gars.
Du coup, gros opener d'Euro, quoi. Hein. Là, franchement, là, moi, j'ai rien à redire là-dessus, que ça soit sur l'ouverture avec les promos des trois protagonistes et après la bague. Franchement, top of the top, quoi. Avec des rôles qui souffrent comme ça, moi, j'en veux tous les lundis.
Ouais, je suis. Je me suis régalé devant ce petit triple frite là, improvisé. C'était quand même.
Ça confirme notre option quand même que Drew va être un visage marquant de l'année 2020. Quoi.
Ouais, attention, attendons les retombées du Rumble.
Oui, attention.
Parce que à l'approche du Rumble, bien nous mettre en avant plein de gens, et des fois après le programme qui les attend derrière est pas forcément dingue. Mais ah oui, je le sens bien. Allez.
Je t'assure, hein, j'espère que ça, c'est bien une fusée qu'il a au cul et pas un pétard mouillé, quoi, tu vois, quoi. Donc là, franchement.
Ah non, pas deux années de suite, quoi. Pas deux années de suite. Ah, il a eu une belle année l'année dernière, mais là, il faut que ça soit une année énorme.
Mais ouais, s'il y en a un qui mérite dans le show rouge, c'est bien lui, tiens. Allez, l'Écossais psychopathe.
Je mets de côté les petites séquences qu'il y a eu à cette Rollins, on les combinera avec le main event. Plus petit gabarit, s'en est suivi, mais Ricky la Belle Vie est de retour. Il affrontait ce soir Mojo Rawley. Mojo Rawley qui a réussi à s'échapper de l'émission Main Event.
Ouais, c'est vrai, il est un peu lockdown là-bas.
Ouais, donc la puissance de l'ancien defensive end
Florida, c'est ça?
Ouais, des terrapins du Maryland.
Ah, du Maryland.
C'est bien toi. Ah oui, non, mais il y a du suivi, hein, attention, c'est toute une histoire quand même. N'empêche, on a beaucoup parlé de Mojo Rawley, et résultat, il se retrouve dans Raw la semaine d'après.
Voilà.
On lui a porté chance.
Non, mais les officiels de la WWE, ils écoutent Ketchup, quoi. Donc, ils disent, ah ouais, merde, à Ketchup, ils parlent des terrapins du Maryland, donc on va faire un effort sur le prochain Raw.
De toute façon, qui n'écoute pas? A priori, là, ceux qui nous écoutent, nous écoutent.
Voilà.
S'il y en a qui ne nous écoutent pas, on n'est pas au courant.
Non, ils ne sont pas là.
Ils ne sont pas là. Donc, du coup, oui, je suis d'accord avec toi. du dropkick, on passe par-dessus la troisième corde parce que le Royal Rumble arrive. Donc, vous allez en voir, hein, des passages par-dessus la troisième corde jusqu'au pay-per-view de fin janvier.
Ah bah là, ouais, ça va être le thème. Hein, pendant 2 semaines encore, ça va être le thème.
Les cordes à linge par-dessus la troisième corde, vous allez en bouffer. Hein.
C'est le passage obligé du mois de janvier.
Mais bon, tout à la fin, le 6-33-7-11, c'est offre à Ricochet la victoire. Du coup, bah, une belle victoire pour Ricochet. Et, ouais. on verra un petit peu plus tard Mojo Rawley, mais voilà. Ricochet, Ricky la belle vie qui engrange une victoire. Pour le plus grand plaisir de son fan numéro 1.
Ouais. Enfin, une victoire dans un match sans storyline, de toute façon, où voilà, Mojo, il était là pour faire briller le Ricky. Et c'est, du coup, un match court et qui n'aura pas de suite particulière, je pense. Quoi. On n'est pas lancé sur une rivalité au long cours.
Non. Bah, d'ailleurs, le match qui a suivi est du même acabit. Hein. Même objectif. Des matchs de 2 à 3 minutes
ouais.
pour mettre over on va dire les stars avant l'entrée du Rumble, à l'approche du Rumble, puisque Charlotte... Alors toi, c'est marrant, on en parlait aussi la semaine dernière, comme quoi ils nous écoutent vraiment. J'avais dit que j'avais été trouvé ça dommage qu'il n'y ait pas eu un vrai match entre Charlotte et Sarah Logan. Bah, qu'est-ce qu'il y a eu ce soir?
Eh ben, on l'a eu.
Eh ben, on l'a eu. Tu l'as voulu, tu l'as eu.
Tu l'as un grand coup d'un. Tu l'as eu, tu l'as su. Voilà. Tu l'as
voilà.
su.
Charlotte versus Sarah Logan. Charlotte qui a disposé assez rapidement de Sarah Logan dans un match de 2 minutes. Donc Charlotte aussi, on la pousse, mais c'est vrai qu'au final, je me rends compte que ouais, bon, j'ai pas forcément besoin de ce match en fait, mais bon.
Non, bon enfer. Ça s'écrit tout seul pour Charlotte Flair.
Bah ouais, c'est ça. Limite, tu te dis, est-ce qu'on devrait, on n'aurait pas dû mettre en avant quelqu'un d'autre. Je comprends, hein, faut mettre Charlotte, donc t'as Charlotte, tu la mets dans le show, toi, mais...
Bon, et puis parce que Charlotte, c'est de toute façon, quoi qu'il arrive, elle est dans le top 3 des favorites pour le Rumble 2020, donc de toute façon,
ouais.
Y a pas photo là-dessus, ouais. Donc Sarah Logan, elle sert de chair à canon, la pauvre. Elle a été un petit chouille repackagé au niveau du look et tout ça, mais bon, elle a pas le droit à plus de 2 minutes dans le ring face à...
Ouais, elle fait des hurlements de loup, maintenant,
oui.
C'est ça.
Oui, oui, oui. Ah. Elle crie au loup, oui, tout à fait.
Ouais. Mais pour, par exemple, on aurait pu imaginer une autre configuration, je sais pas moi, peut-être une espèce de triple frite ou des, je sais pas, où il y a plus de monde, faire briller peut-être d'autres participants, d'autres catcheurs, je sais pas.
Oh, ou peut-être organiser un ou deux petits matchs de qualif pour le Rumble, justement, tu vois, entre des mid-cardeuses ou des low-cardeuses, tu vois, pour agrémenter un peu le truc. Voilà, un Sarah Logan versus je sais pas qui. Pour gagner son ticket pour le Rumble ou des choses comme ça, je sais pas.
Ouais,
c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de mettre plus en avant que ça Charlotte. Elle peut se contenter de faire une ou deux promos backstage en disant je vais péter des mâchoires à tout le monde au Royal Rumble.
Voilà.
Et puis on y croira tous, quoi, tu vois.
Bah ouais, c'est ça, pas besoin de nous le prouver à la télé. Entre les cordes, effectivement, une petite interview backstage, une petite séquence, quitte à ce que ça soit avec d'autres catcheuses pour qu'elle voilà, elle fasse briller un peu, mais. Mais voilà, là, c'est vrai que. Mais ça, ça illustre un petit peu les reproches que j'aurais pu faire à Charlotte un peu en fin d'année dernière. C'est pour ça que dans les awards que je vous invite à écouter, si vous ne l'avez pas encore écouté, j'avais mis Charlotte, alors en fin de flop, mais j'avais mis une petite mention, un petit avertissement à Charlotte parce que bon, c'est pas forcément de sa faute, mais elle est dans une période où il faut. On sait qu'elle est forte et on continue à nous le montrer quand même. Au dépens peut-être du reste de la division féminine, toi, qui aurait peut-être un peu plus de besoin d'exposition à l'approche d'un événement comme le Rumble.
Ouais.
Bon, je veux pas, faut pas trop se prendre la tête avec ça, mais c'est un petit peu dommage de pas voir les autres filles. Quoi. Bon, écoute, on arrive à. Franchement, je spoil, c'est mon top de l'épisode. je fais comme Poleman, je spoil. On a eu une séquence assez improbable. Poleman et Brock Lesnar, ça commençait alors comme les 50 000 autres séquences de Brock Lesnar et Poleman, sauf que là, le public a mordu.
Ouais, un public très très chaud et très très taquin à ce moment-là.
En fait, il a suffi d'un accent du sud. Il a fallu que il a suffi que Poleman se moque des locaux, enfin du public. Pour que soudainement le public mais se retourne puisque en fait grosso modo Brock Lesnar et Paul Heyman ne sont jamais hués habituellement et là le public s'est complètement retourné là. Paul Heyman a réussi
pas au moment de la présentation oui en général ils sont jamais hués après après quand même ils sont quand même il y a quand même pas mal de boue quand même.
Ouais, mais là, ça a commencé dès le début, quoi. Il a même pas réussi à placer sa catchphrase complète. Je suis l'avocat de Brock Lesnar. Il a vraiment retourné le truc à l'envers. Je me demande si, enfin, c'était assez délibéré, quoi. Il a vraiment construit sa promo de manière à se faire huer. Il attendait, il se faisait couper. Il laissait le public continuer à huer. Brock Lesnar faisait la tronche. Il y avait vraiment tout un travail qui était fait pour vraiment avoir la hit. Assez forte sur Paul Heyman et Brock Lesnar. Donc, il nous rappelle tous les hauts faits, évidemment, de Brock Lesnar. Et là, il nous dit que ce qu'il nous fait, c'est que... je ne sais plus comment il a formulé ça, mais il nous raconte que la vérité, quoi. The truth.
Oui, ouais, ouais. En fait, il amène le mot vérité dans sa promo, quoi. Donc,
ouais, il amène le mot truth dans sa promo, et du coup, qui c'est qui apparaît comme un Pokémon? Un truth. Il fait ah salut, vous parlez de moi. et puis là, il commence à parler de son héros, hein, John Cena, et que ouais, en hommage à son héros d'enfance, John Cena, il annonce officiellement son entrée au Royal Rumble. Donc, votre champion 7-Eleven European TV Champion là, sera opposé et surtout se fera un plaisir de passer Paul Heyman par-dessus la troisième corde. Sauf que là, Paul Heyman le regarde, mais genre, il dit, mais attends, mec, tu t'es complètement planté. Je ne serai pas au Royal Rumble. Je fais, hein? Ah, excuse-moi, j'ai mal compris. Je fais, c'est Brock Lesnar qui sera là. Alors l'autre, il fait les gros yeux. Il dit, bah écoutez, en fait, j'annonce officiellement que je me retire du Royal Rumble. Et Brock Lesnar, pendant toute cette promo, il était mais mort de rire. Genre,
ouais.
Pour de vrai, quoi.
Ouais, ouais, non, mais c'était dingue.
Donc, il dit, ouais, truth, il dit, appelez-moi, tu parles trop, tu donnes trop de spoilers, c'est pas cool. Moi, je veux pas me retrouver envoyé à Sioux Falls City, au lieu de Suplex City. Donc, Brock Lesnar, il est mort, Paul Heyman n'arrête pas de le corriger. Et puis, à la fin, bah, Brock Lesnar, il va placer son salariat et son A5 pour our truth. Alors qu'un truth lui a demandé, what's up? Il fait, that's what's up. Il le tue en direct.
Voilà.
Et alors R-Truth se fait choper en plus, il aura tout perdu ce soir parce qu'il se fait voler le T27 par Mojo Rawley qui était de passage par là.
Et ouais, qui était resté dans la gorilla position et qui surveillait l'affaire.
Un véritable trésor national, hein, ce R-Truth.
Ah ouais, 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 non mais quelle poilade ce segment. Non mais ça faisait longtemps, ouais, vraiment. Puis alors on sent un Lesnar, mais le mec il est hilar, il est mort de rire. On sent que c'est pas fin quoi, que vraiment que la situation le fait poiler. Et toute l'interaction entre R-Truth et Paul Heyman, franchement c'est du sucre quoi. C'est voilà la tête de R-Truth quand il comprend que ah non c'est pas Heyman et que Heyman il lui dit ouais non mais en fait c'est pas moi mais tu vas croiser la route de mon client au Royal Rumble, pas de moi. Et ce truc immédiat de R-Truth de dire bon ben je me retire officiellement du Royal Rumble.
Avec la même annonce mais inversée.
Ah ouais, avec la même annonce inversée, mais c'était génial quoi. C'était poilant. Attends, mais le R-Truth. Alors le R-Truth, il est hallucinant. Lui encore un mec. Mais quel âge il a eu? Il a 46 piges, je crois.
T'as vu le saut carpé qu'il nous fait là? Il a 40. Oui. Ouais, il a presque 50 balais. Hein.
il danse
46, 47 ou 48.
Parce qu'à la fin, ouais, il est tellement content, ouais, qu'il danse. Il danse et tout avant de se prendre le lariat et le F5. Et, vraiment, et puis on sent qu'il est il a 47 ans. Il est un petit peu plus jeune que moi. Il a 47 ans, notre ami Ertrus, quoi. C'est quand même incroyable, quoi. C'est quand même un mec qui fait 1m88, 105 kilos, et qui est dans une shape. On dirait qu'il a 30 ans, et ben on y croirait, quoi.
Ah, faudrait qu'il vienne faire des cours à l'EHPAD, là.
Ah ouais, c'est clair, ouais. Non, mais il a ce ressort comique, quoi, et que c'est d'ailleurs lui qui sauve et qui tient à bout de bras le titre 24-7. Donc j'imagine bien d'ailleurs que Mojo Rawley va pas le tenir bien longtemps ce titre, parce que je pense que le Ertrus sera champion 24-7 au moment du Royal Rumble, à mon avis. Mais on en reparlera de ça. Donc voilà, donc écoute, c'était un excellent segment. Voilà, bon, le champion est... Et comme d'habitude, fait rien, quoi. il met une clothesline, il met un F5 à droite, un F5 à gauche. Mais pour le coup, voilà, quand c'est dans un segment comme ça, et ça passe bien.
Ah, j'ai beaucoup aimé, je te dis, le public a vraiment mordu à la hit.
Ouais. Mais de toute façon, on peut dire que le public du Kentucky, ce lundi soir, était vraiment chaud et un bon public tout au long de la soirée, à la différence de ce qu'a été à SmackDown vendredi soir.
Ouais.
On en a parlé pendant la partie SmackDown, et là franchement par contre le public d'Euro ce lundi c'était excellent du début à la fin.
Bon, ils ont failli toucher le top du flop. Les Viking Raiders sont de retour avec leur squash match.
Ouais, voilà, c'est reparti.
Singh Brothers qui y sont passés cette fois. Donc nouvelle année, même formule, hein.
Ouais, bah ouais, écoute, rien à dire, c'est toujours aussi déprimant ce traitement. On pensait qu'ils allaient passer un peu à autre chose pour la Tactic Division d'Euro, mais non, c'est pas le cas. Donc, destruction extrêmement expéditive des Singh Brothers par les Viking Raiders.
On a eu aussi Lashley Rousseff. Aïe. Alors. Une petite interview qui a commencé, Lana est pas contente, Lashley non plus, il y a un petit peu d'eau dans le gaz, hein, les deux là, ils s'entendent pas autant que ce que Lana voudrait, mais ce soir il y a un match, Lashley contre Rousseff, avec Lana qui est ringside, on se balance des gros coups de tatane dans la tronche, du gros kick en voiture, voilà. Lashley attaque le genou de son adversaire. Rousseff revient avec un Samoan drop, les souplesses. On utilise la petite accolade, mais Lana provoque une petite distraction qui permet à Lashley de capitaliser sur le momentum. Double clothesline. Les mecs s'annulent.
Il y a Liv Morgan qui est arrivée dans l'intervalle.
Morgan débarque, ouais, elle est ringside, elle vient un petit peu provoquer Lana, qui lui balance un verre dans la tronche.
Voilà.
Donc quand vous êtes au premier rang, ne laissez pas vos bières traîner sur les rambardes d'insécurité. Hein? Liv Morgan, donc, qui n'y voit plus rien à cause de la bière de piètre qualité à $15. Elle se met un peu sur la tronche. Et Lashley qui en profite dans tout ce bordel pour placer le spire de la victoire. Semaine prochaine, on aura droit à un mix Mac Tag Team Match.
Mac Tag Team Match.
Mac Tag Motherfucker.
Challenge.
Ah oui, non, mais. Challenge. Le truc, c'est que là, elle est un peu bouchée. Un mix challenge.
Non, mais ça, on l'a vu arriver à des kilomètres. Enfin, je veux dire.
Trop compliqué, la stipu, quoi. Un mix challenge. Hein, c'est quoi ça, un mix challenge?
Un mix challenge. Non, mais Lana, sérieux, quoi. Non, mais bon, en plus, voilà, le truc, on l'a vu tellement arriver à des kilomètres. Là, c'était quasiment la certitude, là, avec ce Bobby Lashley versus Rousseff, qu'on allait terminer là-dessus. À partir du moment où Liv Morgan est arrivé et que ça a commencé à se battre, si tu veux, c'était clair qu'on allait nous annoncer un match comme ça. Je me suis même demandé sur l'instant si on n'allait pas nous l'envoyer après la pub, quoi, tu vois, quoi, et qu'on allait se retrouver avec le mixed tag team match challenge number one, tu vois.
Et non, parce que la WWE prend son temps, parce que cette histoire va durer toute l'année.
On nous l'a gardé pour la semaine prochaine, du coup. Mais oui, ça va durer des mois, là. Là, ça dure déjà depuis des mois. Et ça va durer des mois encore. Donc,
Ouais, de toute façon, c'est... Ouais.
le match était pas trop trop mal entre Rousseff et c'était peut-être même la meilleure confrontation qui s'est eue sur la.
Ouais, deux gros costauds qui se foutent des grosses patates et des souplesses. Bon, bah voilà, hein.
Et puis, donc, bon, écoute, voilà, maintenant on est lancé là-dessus. Bon, écoute, hein, pire rivalité de l'année 2019, et on est le 15 janvier, et ça continue, donc on verra à la fin de l'année 2020 où on en sera avec cette rivalité-là, quoi. Mais écoute, s'ils nous font un truc, une
Aïe.
rivalité sur un an et demi entre Bobby Lashley, Rousseff, Lana et Liv Morgan, ça va être énorme, quoi.
Comme le disait un célèbre chanteur, ça continue encore et encore.
Ah là là, ouais.
C'est que le début, d'accord.
Un début qui dure.
Ah ouais, le début le plus long. Est-ce que ce début va se terminer? Vous le saurez dans 6 mois. On a eu une signature de contrat pour un match de championnat.
Oui, ça faisait un petit moment que c'était pas arrivé.
Ouais, effectivement.
Pas super longtemps, mais un petit moment que c'était pas arrivé.
Ouais. Disons que ça se perdait un petit peu.
Voilà.
En 2019, je ne suis pas sûr qu'on en ait eu énormément. Là, ils ont même tenté un truc un petit peu original, pour la peine. Donc, signature de contrat entre Becky Lynch et Asuka, avec le King Lawler aux commandes, hein, qui semble être une sorte de général manager de la division féminine, puisqu'il est toujours impliqué dans les segments des femmes. Allez savoir
Le
pourquoi.
malin. Le malin, celui-là.
Et ben ça se fait un petit peu en silence cette histoire finalement, puisque quand Asuka débarque accompagnée de Kairi Sane, Kairi Sane qui d'ailleurs enfin, ça fait plaisir de la voir, elle a l'air d'avoir retrouvé un petit peu ses esprits.
Elle n'est pas encore apte à catcher,
Non.
mais elle peut revenir à l'antenne.
Pour venir à l'antenne, elle essaie d'intimider Becky Lynch en lui donnant des coups de parapluie. L'autre elle la chope, mais enfin j'ai cru qu'elle allait vraiment lui exploser le crâne quoi. J'ai bien aimé cette petite séquence. J'aime beaucoup ce personnage de Kairi Sane qui lui colle, qui est un peu moins, je trouve un peu moins, qui est un peu plus supportable dans son côté insupportable. Sale petite peste là qui vient emmerder tout le monde. Alors qu'Asuka, c'est vraiment la folle dangereuse quoi.
Ouais, et puis ouais, Asuka, voilà, elle fait peur, quoi. Donc,
Ouais, alors.
c'est pas tout à fait le même style,
L'ensemble, elles vont bien.
Asuka, tu te dis, ouais, si elle me met un sidekick dans la tête, c'est pas cool, quoi. Voilà, quoi.
Ouais.
Elle est un peu du genre à faire bobo, Asuka.
Faire bobo. Les deux signent leur contrat un peu en silence, d'ailleurs. Ça, c'était plutôt pas mal. Asuka chope son micro, elle commence à gueuler en japonais, comme elle le fait si bien. Elle fait. Je crois elle insulte de idiote parce qu'elle fait baka baka baka. Et je regarde avec ma copine, elle me fait ah, elle a dit baka baka. Je dis ah, mais ça veut dire quoi baka baka? Elle me fait ah, ça veut dire idiot, 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 idiot. Je dis ah, d'accord, ok. Bon, toi, on apprend des choses.
Ah ouais, c'est parfait. Tes notions de japonais s'améliorent de semaine en semaine.
Ah ouais, merci, merci les Kabuki Warriors. Avant de cracher son poison vert au
Merci, enfin,
visage.
merci madame elle patronne surtout, quoi, parce que c'est elle
Elle
qui fait la
patronnette.
traduction. Elle patronnette, madame elle patronnette, fait la
C'est elle qui
traduction
tire les ficelles dans l'ombre, tu sais.
japonais. C'est énorme, quoi, quand même. C'est elle qui fait les traductions en japonais pour le yen. C'est magique.
Puis tu diras ça et ça et ça pendant ta analyse. Ok.
Bah, madame elle patronnette, faudrait qu'elle vienne un coup au micro, quoi, qu'on en
Ah,
cause
elle préfère être de l'autre côté à écouter les conneries qu'on raconte.
J'aimerais avoir l'avis d'une femme sur la division féminine à la WWE en 2020.
Eh ben, je lui poserai la question. Bon, t'as déjà eu l'avis de Giscale?
Ouais, je confirme, ouais, je
Je
l'ai
suis
eu.
pas sûr que ce soit un avis qui t'enchante.
Giscale n'est pas une femme.
Mais l'homme est une femme, c'est
Ou
pas
alors on
ça?
nous aurait menti?
Bah, j'en sais rien, moi on l'entend plus, il vient plus. Hein.
Ouais, c'est peut-être une femme à l'insu de son plein gré, on ne sait pas quoi.
Ouais, peut-être passer sous le bistouri, hein, tu sais, hein, comment c'est maintenant.
Ah, mais Giscard, il a perdu l'adresse du studio d'ailleurs. Si quelqu'un le croise dans la rue, si vous pouvez lui redonner
Ouais.
l'adresse du
Il a un
studio de
petit,
quelqu'un,
il a un,
s'il vous
pourtant il a un petit collier avec le badge et l'adresse du studio marqué dessus.
plaît. Ouais, normalement c'est facile, hein. Vous regardez au niveau de son cou, on avait tout prévu, hein, mais on l'a vraiment perdu et on recherche le petit Giscard partout. On a fait des annonces dans les supermarchés, dans les centres commerciaux. Impossible de remettre la main sur le Giscard. Alors,
Ouais.
si il est venu pour les awards, vous pourrez constater, il a même hosté les awards. Et on sentait qu'il était chaud et que ça faisait longtemps et que. Mais depuis, on l'a reperdu. On sait pas où il est passé.
Ouais, effectivement, il y a une sorte de malédiction. On devrait peut-être un petit peu commencer à s'inquiéter, toi. Parce que là, il reste plus que nous. C'est une espèce de Fortnite, la Battle Royale, qui sera le dernier survivant, là. Bon, allez, on s'égare, étranger. Donc, ouais, gros coup de poison vert dans la tronche de Becky Lynch, qui hurle à la mort. Genre, visiblement, ça fait très mal,
Ah
hein,
ouais,
ce truc.
c'est de l'acide, hein, c'est de l'acide sulfurique. Hein.
Attaque à l'acide sulfurique dans le Kentucky. Becky Lynch, donc, qui hurle de douleur pendant que les Japonaises disparaissent et que bah, tout le staff médical vienne balancer les bouteilles d'eau de Triple H au visage de la championne.
Ouais.
C'est l'eau de Triple H, normalement, hein, c'est une eau spéciale. Hein.
Et ouais, là, ça, c'est un truc trademarks.
Ouais, et elle chope le micro alors qu'elle a encore les yeux rouges, début de conjonctivite, non? Et là, elle hurle et genre, mais ça l'a énervée grave de ouf, quoi. Elle était vraiment pas contente. Elle avait la tête basse, là, les cheveux par-dessus, les yeux à moitié dans le vague. Elle chopait la caméra pour s'adresser vraiment à Asuka, genre en mode cette fois-ci, finis les conneries. Et elle annonce simplement qu'elle va la détruire, que elle a, voilà, elle en a bavé, mais qu'à chaque fois grosso modo, qu'on lui a mis un coup dans la tronche, Remember Nia Jax, bah, ça a un peu révélé le mode Super Saiyan de Becky Lynch. Et que grosso modo, on peut dire que ce soir, Asuka a fait l'erreur de sa vie.
Ouais, elle lui dit, elle lui gueule que sa vengeance sera terrible au Royal Rumble, quoi. Ça déconne pas, quoi. Becky, elle était vénère.
Ouais.
Écoute, le segment, moi, je trouve que c'était bien géré parce que du fait de la faiblesse d'Asuka au micro en anglais, bah, j'ai trouvé que tous ces échanges de regards, tous les petits détails en fait qu'il y avait tout au long du segment, les échanges de regards entre les deux, les silences, les histoires de coups du parapluie avec Kerry Zane, tu vois tout ça, la signature de contrat avec je chope le micro, bah, je me prends le miss dans la gueule et derrière je hurle le miss. Ah ouais, le miss, ça a l'air d'être un truc de fou, quoi. C'était la sauce des KFC du Kentucky là qui montre le visage là. Et du coup, ouais, j'ai trouvé ça vachement bien foutu. Et j'ai trouvé, tu vois, que c'était une signature, pour le coup, signature de contrat qui était bien bien rythmée, où on utilise bien les deux catcheuses des deux côtés. Enfin, vraiment, pour moi, ça a roulé ce segment, quoi. Mais du début à la fin, quoi. Puis voilà, la tronche de Becky pour finir le dernier plan de caméra, là, où elle dit que sa vengeance sera terrible! C'était bon, c'était bon.
On
Bravo
a
les filles.
retrouvé The Man quand même.
Ah ouais. Un
Il avait
The
un
Man.
peu perdu, c'était
Un
un petit peu
The Man, un peu
endormi.
The Man vers, comme tu l'as dit là, un peu, ouais, un peu The Man version Survivor Series là.
Ouais, exactement, quoi. Alors, au début, sur le coup, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a? Je trouvais que c'était un petit peu exagéré, quoi. Genre, pourquoi tu t'énerves tout d'un coup? Enfin, ok, c'est pas cool ce qui vient de t'arriver, mais genre là, elle fulminait, mais grave
Ah
ouf.
ouais. On leur a dit de vendre le mist comme un truc
Ah ouais!
absolu, quoi. Donc,
Ah
elle le vend
ouais!
comme un truc absolu.
J'étais un petit peu circonspect, mais là, elle patronnette me fait « Mais non, tu comprends rien. Évidemment qu'elle est vénère. Elle vient de l'expliquer dans sa promo. Quand on l'attaque physiquement, c'est là que ça réveille en elle toute sa fureur. Tu comprends
Ah
rien. » J'ai fait « Ah bah oui, d'accord, pardon.
ouais. Elle patronnette, elle te fait aussi la traduction en anglais, quoi. En japonais. En anglais. Ah mais c'est énorme quoi, franchement putain, ta traductrice simultanée pendant que tu regardes le show, c'est fantastique quoi.
J'ai mon Nelson Montfort.
D'accord, ouais. Bon moi l'anglais j'ai pas de problème avec, mais par contre le japonais je t'avoue que c'est plus compliqué quoi. Donc quand j'ai une Asuka ou une Yoshirai qui s'énerve un peu, j'ai toujours à part Arigato et puis sushi.
Ah ouais, les gâteaux, ouais, les gros gâteaux. Ouais.
Voilà, ouais, tu vois,
Ah,
c'est
dans
bon.
l'anglais, ça va, et heureusement, mais c'est juste que j'étais un petit peu surpris par toute cette colère de Becky
Après,
Lynch, mais.
Becky, en plus, elle a un gros accent, donc
Ouais.
c'est assez particulier.
En fait, là, après coup, je suis trop content de retrouver la Becky Lynch de Survivor Series, quoi. Et c'est pas pour rien que la rivalité des filles l'année dernière, elle a viré notre top, quoi. Parce que, enfin, Becky Lynch, Ronda Rousey et Charlotte, quand elles étaient toutes les trois, il y avait une telle synergie qu'elles, il y avait Becky Lynch, elle avait une colère permanente, quoi. Elle avait, elle avait envie de se battre, quoi. Et on retrouve ça ce soir, donc.
La période où elle était enragée, là, et voilà. Ouais. Quand tu vois le Rumble de l'année dernière, hein, comme c'est la période, là, hein, tu vois, en janvier 2019, retourner voir quelques highlights avec Becky du Rumble, du pay-per-view du Royal Rumble, c'était incroyable comment elle est enragée, quoi, du début à la fin.
Ouais, c'est clair. Non, non, c'est Welcome back, the man. écoute, pourquoi changer une formule qui marche? Visiblement, c'est la question que s'est posée le booker de Aleister Black versus Buddy Murphy.
Ah bah ouais, ouais, lui, il a signé pour 3 mois avec eux. Il a dit là, non, là, c'est trop bien, moi, je continue.
Le mec est peinard, il fait, bon, les gars, vous avez un match. Ok, d'accord. Et c'est parti, quoi. Donc, bah, gros match, une fois de plus, entre Aleister Black et Buddy Murphy, avec, mais des séquences... Cette séquence de ouf où... Alors, Buddy Murphy, ce mec, je ne sais pas s'il était cascadeur, mais il pourrait l'être, parce que c'est ce mec, c'est comme s'il avait un filin accroché derrière le dos et qu'il le tire, parce que quand il arrive à se projeter en arrière de façon hyper dramatique, notamment dans cette séquence où il est dans les barricades. Il se retrouve projeté dans les barricades après une attaque de Aleister Black et qu'après, Aleister Black, il court pour lui mettre un énorme kick, mais... Il y a tellement de générosité chez Aleister Black que le mec passe par-dessus la barricade et se retrouve coincé sur les genoux d'une vieille dame. Enfin, j'ai une vieille dame, j'en sais rien, pardon madame, mais une spectatrice lambda. Et il avait l'air con, mais... Les mecs sont tellement à fond qu'ils se lâchent et ce match était une fois de plus super... C'est incroyable, il y avait des rappels évidemment à leur séquence des matchs précédents, les grosses séquences de kick là, de Buddy Murphy où il écrase les orteils d'Aleister Black. On nous a teasé évidemment le Black Mass, mais Murphy à chaque fois a réussi à l'éviter. On a eu le Murphy's Law aussi avec, alors ça c'était super intelligent, là je fais le malin, mais c'est El Patronette qui me l'a pointé du doigt. C'est un épisode spécial El Patronette, hein.
Ouais.
Quand Murphy place son Murphy's Law et en fait il retire Aleister Black des cordes, tu vois, parce qu'il est mal placé, il le remet au centre du ring, mais malgré tout Aleister Black arrive à remettre son pied sur la corde. C'est très intelligent parce qu'en fait du coup tu vois plus arriver le spot, toi, puisque vu qu'il le remet au centre du ring. D'habitude tu te vois quand les mecs sont sous la corde, tu vois, il va mettre son pied, mais là hop, il l'a remis et Aleister Black il met quand même son pied. Enfin, comme une certaine intelligence et surtout un sentiment d'urgence permanent dans ce match-là. La fin est un peu plus bizarre. Alors là, écoute, tu vas me dire ce que tu en as pensé, mais Buddy Murphy tease le Black Mass. Donc, petite nouveauté, ça c'est très bien quoi, les mecs font ça. Aleister Black place le sien. 1, 2, 1, et là pas 3, puisque l'arbitre a vu quelque chose que personne d'autre n'a vu. L'arbitre a visiblement vu une épaule se lever, et un peu de confusion, on nous fait un petit spot avec un Black Mass pour cette fois-ci la victoire. Donc, 1, 2, 3, 3 victoires d'affilée pour Aleister Black. Et des mecs qui ont tout donné, et un finish un petit peu chelou, là.
Ouais, ça m'a pas trop dérangé. Pour le coup, encore un bon match entre les deux. Moi, ce qui est assez bizarre dans le contexte, en fait, c'est que c'est la troisième fois qu'ils s'affrontent et qu'on en est à 3-0 pour Aleister Black. Donc vraiment, l'Australien, mine de rien, dans cette rivalité, il est complètement... il a beau faire des bons matchs, et il a beau se défendre, il n'arrive pas à venir à bout du Hollandais, quoi.
On verra plus tard que c'était... Il avait une idée derrière la tête.
Ouais, ouais, et puis que c'est surtout que je crois que là, ce qui nous tease à la fin, c'est que de toute façon, il reste prostré au bord du ring,
c'est ça.
Et on sent qu'il est totalement frustré et que là, il se rend bien compte que, ouais, ok, là, c'est le troisième et j'ai encore perdu, quoi. Donc, voilà, mais au final, ils nous ont encore proposé, ouais, un match de qualité et vraiment, enfin, voilà, hein, ces deux catcheurs super solides, il n'y a rien à redire là-dessus. Hein, c'est vraiment. Ils arrivent après 3 matchs, c'est pas facile comme ça, les séries comme ça, des fois ça peut lasser. Mais pour le coup, comme à chaque fois ils nous délivrent la marchandise, on a un bon match de catch bien solide.
Il y a des beaux rappels à chaque fois, les mecs à chaque fois ils contrent. Voilà, c'est un peu les forces à la NJPW, quoi, où les mecs ont.
Ouais, c'est pas fou. C'est vrai que c'est un match qui pourrait se rapprocher, ouais, pas mal un peu du style de ce qui se fait au Japon.
Ouais, c'est ça. Ou à chaque fois, la deuxième fois, bah toi, à chaque fois, les mecs. Bon, ils font ça aussi à WWE, mais là, c'est pas. Enfin, là, clairement, c'est là-dessus qu'ils ont joué ce scénario. C'est effectivement, à chaque fois, les mecs arrivent à contrer ce qu'ils n'ont pas réussi à contrer avant. Donc, les mecs se souviennent, voilà, ils apprennent, quoi. Et à chaque fois, bah, il a aussi péché d'orgueil, hein, Murphy, qui a voulu placer le Black Mask, quoi.
Et
Hein,
ouais, bah
donc à
ouais.
chaque fois, c'est toujours pareil. Le mec gagne ses trois matchs. Voilà un bon booking. À la fin, Aleister Black a remporté, mais à chaque fois, c'était très compétitif. À chaque fois, ça s'est joué à pas grand-chose. Et notamment grâce à son Black Mask qui est comme un RKO, quoi. Hein. Tu te le prends, c'est fini, quoi. Si tu ne vois pas venir, toi, t'as beau être plus fort que ton adversaire. C'est comme quand. Comment
Ouais,
il s'appelle? Indiana Jones sort son pistolet et qui tire sur le mec qui avait son fouet là ou son ninja là. Bah voilà, t'as l'air con à faire tes mouvements dans tous les sens, mais si on te tire dessus, bah, paf, t'es mort.
Bah, Indiana Jones, ça lui est quand même arrivé des fois d'avoir son pistolet vide pour le coup. Plus de balles, plus de munitions, plus
Oh
rien.
le con,
Ah
le
le
con.
con, merde, c'était pas dans le
Et
scénario.
mais ouais, Buddy Murphy qui se retrouve, voilà, il est sonné, il est sonné, il tentera d'être interviewé, il renvoie bouler l'intervieweuse dans les cordes. Entre-temps, on a eu Eric Rowan qui est débarqué,
Ouais.
qui a squashé et qui a mis sa main dans sa cage parce qu'il voulait aller chercher ce qu'il y a dedans, la créature qui est à l'intérieur, et il s'est fait mordre. Et du
Mort.
coup, il était pas content, il fait méchant, méchante bête.
Le
Voilà.
voilà,
Il y avait un.
Eric the Snake Rowan. Moi, pour moi, je continue dans ma théorie. C'est un serpent qui est dans cette cage.
Ouais,
Bon, par contre,
peut-être.
ouais, 490e squashage de Jobber. Voilà, Eric Rowan, Viking Raiders, même combat.
Ouais, mais au moins une petite histoire parallèle,
Oui,
toi.
au moins, il a ça, Eric Rowan. Ouais, c'est vrai qu'il a, il a ce truc d'avoir cette fameuse
Le
bête.
squash match, il est pas, c'est pas le point focal. Le point focal, c'est qu'est-ce qu'il y a dans cette cage, alors que les Viking Raiders, les matchs, la compète, c'est ça le point focal. Sauf que de la compète contre des jobbers et dans des squash, ça résout pas l'équation, quoi.
Ouais.
Bon, on va arriver au main event. Avant ça, on a eu quelques séquences backstage avec Seth Rollins, Kevin Owens et toute la clique. Notamment Seth Rollins avec AOP, là, ils sont un petit peu ambiancés parce que ce soir, il y a du fist fight. Hein, c'est un fist fight match. Personne n'a rien compris à la
Non.
stipulation. Je pense que même après le match, on n'a pas compris la stipulation parce qu'elle était juste, on va dire, illogique par rapport à son intitulé. Voilà, donc il est toujours dans son délire de Messie, la destinée, enfin voilà, il y a la prophétie, donc on y va, on est total à fond là, on embarque complètement dans ce délire de Messie sauveur des masses de
Il
Seth Rollins, et c'est génial.
poste même sur Twitter des images de lui christique avec des vitrailles de Jesus et avec la tête de Seth Rollins.
Non, ah, c'est génial.
Ah mais si, mais carrément, il en est là, quoi.
Monday Night Messiah, mais c'est bien parce qu'il y a tous des éléments de langage, il y a des sacrifices, toi, il dit il a tout
Ah oui,
sacrifié.
ça oui, ça oui, il a donné de sa personne, ce garçon.
Mais il est tellement, et c'est ouf la différence de, comment on pourrait dire ça, de même de matière, toi, dans ses promos par rapport à quand il était babyface, où il était pris dans ses tourments et il endormait. Et là, tout d'un coup. Enfin, il est inspiré par ce qu'il dit, qu'on sent que toi, il prend un vrai plaisir là, à jouer ce leader de nouveau Messi. Alors, c'est très drôle en plus parce qu'il y a cette série sur Netflix qui s'appelle Messiah en ce moment, avec voilà, ce nouveau Messi qui en fait qui est peut-être pas si gentil que ça. Bah, là, on est en plein dedans. Ça, c'est vraiment, je trouve, il est vraiment à l'aise, ça fonctionne bien. Juste après, on a aussi Joe et Owens qui nous avec Big Show qui arrive, qui monte la taille de son poing et qui dit, vous inquiétez pas, les mecs, c'est un fist fight. Vous avez vu la taille de mon poing?
Ah, j'amène ce qu'il faut.
J'amène ce qu'il faut ce soir. Voilà, amener fistouille. Ça va. On va bien s'amuser. Et puis, tout ce beau monde s'est retrouvé dans un match ce soir dont on n'a rien compris, mais c'était pas ça le plus important. Alors, les règles, c'était no holds barred, pas de disqualification, pas de countout, pas de pinfalls, pas de submission. En fait, il n'y avait rien. C'est juste l'arbitre qui décide
C'était l'arbitre
quand une équipe ne peut plus continuer, en fait.
voilà, l'arbitre qui était seul maître à bord.
Voilà. Est-ce que c'était pas le même arbitre qui a arrêté le match The Finn Seth Rollins?
Ah, peut-être, j'ai pas fait attention
qui
à ça.
A eu... Est-ce que c'est ce match-là qui a eu notre flop? Non, c'est pas celui-là, mais qui était dans le, sur le podium des flop match de catch-up. Je me demande vraiment si c'était pas le même arbitre. Hein.
Ah, c'est peut-être. J'avoue, j'ai pas prêté attention à ça.
La jurisprudence, là. Hein. Attention, quand vous voyez cet arbitre, dorénavant, attendez-vous à une fin de match un petit peu controversée. Alors, on a eu quand même droit à des séquences assez incroyables. Déjà, le match commence à peine puisque le Big Show se fait attaquer par les méchants. Les kendo sticks commencent à sortir. Show se bouffe une table ou il va chercher une table, je sais plus. Après, il y a le gros brawl entre les OP et Samoa Joe et Kevin Owens. Et là, on se retrouve.
C'est le Big Show qui passe à travers une table.
Ouais, oh là là. Et puis après, on se retrouve sur du côté de, enfin sur le sous le Titantron avec une brawl en contrebas et là Kevin Owens qui arrive en courant et qui nous fait une Tony Hawk. Parce qu'il, le mec a marché sur un mur quoi. Il a fait le vrai Yamakasi, c'est lui quoi. Il a grimpé genre en mode Sonic le hérisson là. Il a couru et il a fait une Senton Bomb depuis le Titantron, depuis l'écran quoi.
Depuis les plaines du Kentucky, atterrir directement sur les AOP et Seth Rollins.
Oh là 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 là, c'était incroyable. Samoa Joe, lui, il va se bouffer la table des annonceurs avec Kevin Owens. Les deux vont finir par passer à travers la table des annonceurs. Pendant ce temps-là,
En couille dans tous les sens, de toute façon, c'est
ça. Il reste plus que Show, et là, surtout,
c'est Show, ouais, sur le ring, quoi. Au bout d'un moment, les trois ils coincent le Big Show sur le ring, quoi.
Ouais, ouais, mais c'est un petit peu compliqué. Et là, Seth Rollins il tombe sur Buddy Murphy qui était toujours là dans le coin à pleurer, et il lui fait viens, aide-moi, j'ai besoin de ton aide et tout. Et Buddy Murphy finit par se laisser tenter par cette opportunité hein, du nouveau Messie. Il se laisse convaincre assez rapidement par les mots et l'appel de détresse du nouveau Messie de Monday Night Raw, puisqu'il attaque le Big Show et il offre le Big Show en offrande à Seth Rollins qui place son blackout. Et du coup, l'arbitre décide de la fin du match, puisque c'était un fist fight, n'oubliez pas, un combat de poings. L'arbitre déclare la fin du match et c'est donc bien Seth Rollins et AOP qui remportent la victoire et qui célèbrent avec, parce qu'on peut dire, l'arrivée d'un nouvel apôtre dans cette faction l'idée par le nouveau Messie, Seth Rollins.
Faction qui n'a pas encore de nom, mais qui en tout cas est en train de se construire. Là, voilà, un quatrième membre qui vient s'adjoindre dans cet épisode de Raw, quoi. Écoute, une grosse bonne bagarre, en fait, ce main event. Ça a été une grosse baston, avec des règles sans règles, et une grosse baston générale, voilà, avec, comme tu l'as bien expliqué, un spot incroyable de Kevin Owens, et voilà, des tables, et tout ça avec, de temps en temps, un petit coup de caméra sur le Buddy Murphy, qui était effectivement resté prostré, et qui est pendant le main event qui reste assis au bord du ring. C'est assez délirant et non, c'était un main event qui passait bien quoi, qui faisait bien son office. Le Big Show pareil, lui, l'âge qu'il a et tout ça, et dans l'état où il est physiquement, bon bah, et en fait le mec il donne encore son corps à la discipline quoi, hein. Il passe à travers des tables, c'est lui qui se prend les finishers pour terminer le match. C'est assez, quand il pense, c'est quand même assez dingue quoi. Parce que là, t'es face à pas mal de catcheurs assez jeunes, quoi, avec les Authors of Pain et tout. Et du coup, on a un mélange qui fait que pas mal. Et puis, bah, le Seth Rollins, là, qui, comme on l'a dit au début, quoi, voilà, qui s'est réincarné en Monday Night Messiah. c'est complètement délirant. Voilà, c'est Raw, c'est le catch, c'est le délire, c'est top.
Franchement, je veux voir ça maintenant, un peu comme d'autres factions, un peu genre CM Punk avec sa faction là qu'il avait eu.
Ouais, mais moi aussi je suis assez intéressé de voir est-ce que Seth Rollins il va être est-ce qu'il là il va avoir tout ce qu'il faut pour tirer les manettes et puis devenir un gros chef de clan, créer un gros clan comme ils savent faire au Japon par exemple aussi quoi, et au Mexique aussi c'est quelque chose d'assez classique, on fait des gros clans, 5, 6, 7 catcheurs. Voilà. Tu sais, au Mexique, en fait, je sais pas
Je
si
savais pas qu'il y avait des clans au Mexique, toi.
T'as déjà vu des images où on voit des fois des catcheurs, les mecs, ils ont 5, 6, 7, 8, 10 ceintures, tu vois,
Ouais.
sur eux, etc., quoi. Et, parce que les mecs, en fait, viennent et trimballent toutes les ceintures de la famille ou du clan qui détient tel truc à ce moment-là.
Même le chien a une ceinture.
Même le chien a droit à sa ceinture, bah, c'est assez dingue, quoi. Mais bon, du coup, c'est intéressant de voir vers quoi ils vont orienter cette release, surtout que là, on parle pas du tout du titre suprême, là, il n'y a pas de ceinture dans l'affaire, là, il n'y a pas ni de, voilà, c'est donc du coup, c'est assez intéressant de voir ce qu'ils vont créer un peu autour de cette Rollins, quoi.
Ouais, non mais voilà. Ouais, toi, je suis content de t'entendre ça. Il n'y a pas de ceinture, et pourtant, ça a autant de saveur, si ce n'est même plus, parce qu'on construit un personnage qui, de toute façon, un personnage, enfin, un catcheur qui a attiré tout vers lui, l'ombre et la lumière, quoi. Seth Rollins, le meilleur comme le pire en 2019. Et du coup, il faut malgré tout capitaliser sur ce mec-là, qui est magnétique malgré tout, toi.
Et puis, qu'effeuillement parlant, ça nous augure quand même que pour le Royal Rumble match, il y a potentiellement là une team de 4 mecs
Qui vont foutre le bordel.
qui peuvent foutre un sacré boxon dans le Rumble match,
Qui
quoi.
vont contrôler le ring, quoi.
Parce que quand tu as 4 types comme Buddy Murphy, les AOP et Seth Rollins qui se mettent ensemble pour décider de mettre le Dawa dans le Rumble match, je pense que ça peut inquiéter pas mal de monde.
Ouais. Civil War là, et Avengers
Et sachant que Seth
version.
Rollins, c'est quand même le tenant du titre du Royal Rumble, quoi. Donc, le mec, il a peut-être envie de faire le doublé. Le repeat.
Ah, c'est Seth Rollins qui a gagné l'année dernière?
Ouais, c'est Seth Rollins qui a gagné l'année dernière, après qui a été prendre
Ah
son
bah oui.
titre Lesnar.
Tatouage, j'avais complètement oublié
Et ouais,
Seth
bah voilà.
Rollins. Champion sortant. Oui, bah oui, avec Becky Lynch, c'est vrai, monsieur et madame.
Et avec le fameux match après face à Lesnar à WrestleMania où il met 4 stomps ou 5 stomps pour abattre la bête.
Ouais, bah il avait mis un coup dans les couilles, c'était ça sa
Il y avait un
technique.
loblo, ouais, il y avait eu un gros
Ouais.
loblo des familles aussi.
Ouais, c'était pas mal, et derrière il y avait SummerSlam, un gros match aussi. Non, non, c'est vraiment super cette faction là qui se construit. On va en voir plus. Ça fonctionne, hein, c'est une formule qui fonctionne. Toi, on a parlé dans les Catch-Up Awards, notamment de ce qui fonctionnait à NXT. Notre ami Ringside, l'ignoble Ringside, comme tu aimes l'appeler, qui disait bah voilà, NXT, voilà, il y a ça qui fonctionne. Et on s'est dit bah voilà, il commence un petit peu à mélanger les genres, quoi. Et effectivement, des factions, c'est ce qui fonctionne. Les gens aiment bien les factions. On aime bien les factions. On aime les méchants. Voilà, les grands mafieux qui sont accompagnés de tout les bras droits, quoi. Et effectivement, là, ça a quand même de la gueule. Et puis en plus, Buddy Murphy, là, une belle addition. On a construit un peu son arrivée, toi. On nous l'a un petit peu expliqué pourquoi il s'est retrouvé dans cette situation-là, finalement. Donc, et une grosse brawl comme ça pour bien terminer un show.
Buddy Murphy, au final, c'est un personnage qui perd beaucoup ces derniers mois et qui est dans la situation qu'il en a marre, il est archi frustré et que
Ouais.
bah, finalement, avec l'histoire du Monday Night Messiah, il y a peut-être une grosse opportunité pour lui à se créer, quoi.
Et ouais, il va chercher les mecs perdus, quoi.
Ouais. Non, mais c'est un bon placement.
C'est-à-dire, et c'est logique, moi qui dis, bah, il a tout gagné, il sait comment faire. Il sait comment faire. Tu vas dire à cette Rollins, bah non, tu sais pas comment faire
Ah
pour
ouais,
gagner.
parce que ça
Le
serait.
mec a battu 2 fois Brock Lesnar.
C'est clair, ça serait le clampin de la semaine qui débarquerait pour monter sa faction.
Mojo Rawley qui vient.
Voilà.
Attendez, les gars. Suivez-moi, les gars.
Kurt Hawkins ou je ne sais quoi, donc
Ouais,
Slater sorti du formol. Mais là, c'est Seth Rollins, quoi. Le mec, il est Grand Slam champion, vainqueur de Royal Rumble, vainqueur du MITB. Le gars, il a tout fait, quoi. Main event de WrestleMania, donc voilà, pour Buddy Murphy, je pense c'est la bonne opération du jour, quoi.
Bon, bah, on va conclure ça avec notre mot de la fin, si tu veux bien.
Ouais.
C'est l'heure de donner ton flop, ton top et ta note, s'il te plaît, Chris, pour cet épisode de Monday Night Messiah.
Alors, juste en préambule, peuple de catcheurs, parce que je crois qu'on n'en a pas parlé, mais il y a eu un petit. Parce que je n'oublie jamais un homme masqué. Et il y a eu un petit
Ah
segment
oui.
micro promo entre Rey Mysterio, une passe d'armes entre Rey Mysterio et Andrade et Zelina Vega, et bien évidemment pendant le show, quoi, pour se dire toute la haine qu'ils avaient, qui représentait le plus les Latinos, etc. Mais c'était surtout pour vous informer que ne manquez pas à Monday Night Raw la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, pour le titre US, il y a un Ladder match entre Rey Mysterio Andrade et ça, ça va valoir son pesant de tacos. Moi, je vous le dis.
C'est déjà ton top d'avance.
Ah ouais, c'est presque mon top de la semaine prochaine, quoi. Quasiment. Et donc, mon flop, bah écoute, c'était un row assez solide et du coup, bon, toi en plus, t'as annoncé ton top. Ceci n'était pas une prédiction, mais c'était un spoiler. Ou au contraire, comme vous voudrez. Et bah écoute, mon flop, moi je vais le mettre à la manière de gérer Charles, on en a parlé un peu, à la manière dont est géré Charlotte Flair. C'est-à-dire que ouais. Bon, pour moi, les matchs comme ça, les squash matchs de Charlotte Flair, ça n'a aucun intérêt à partir du moment où tu fais partie du top 3 des ouais. favorites naturelles du Rumble. T'as pas besoin de faire des matchs à la con comme ça qui servent à rien et qui n'amènent rien ni à celle qui perd ni à celle qui gagne, hormis le fait de te montrer à l'antenne effectivement, mais que Charlotte, on pourrait l'utiliser justement au micro, en backstage, en interview avec Caruso ou je ne sais qui.
Ouais. Parce que quel, est-ce que tu
du coup, ça
du côté
prive,
des mecs,
ça prive ouais. du temps d'antenne pour moi à des mid-cardeuses ça.
Parce que est-ce que du côté des mecs on a ça, on n'a pas ça, genre un mec main eventer, il va pas se retrouver soudainement à squasher des jobbers.
Tu vois pas Seth Rollins ou...
Tu vois pas Seth Rollins squasher des jobbers, tu vois pas Roman Reigns squasher des jobbers, tu vois pas John Cena squasher des jobbers.
Mais non, c'est clair, ça n'arrive jamais, ça. Donc c'est clair que ce traitement-là, je trouve, pour Charlotte, bah, ça sert à rien, ça n'amène rien, et ça gâche du temps d'antenne et du temps de match, du temps de catch à des filles qui mériteraient un peu d'avoir un peu plus d'exposition, et même si elles sont pas forcément géniales, etc., mais... Voilà, donc ça c'est mon regret. Moi, bon, j'aime bien quand ils font, et ils le font assez rarement pour le coup, finalement, année après année. Mais c'est j'aime bien toujours avoir un ou deux matchs de temps en temps avec un ticket pour le Rumble à gagner. Je trouve que c'est sympa.
Ouais, voilà. Une première ou une dernière position, toi, des trucs comme
voilà,
ça.
Il reste, c'était l'avant-dernier Raw avant le pay-per-view.
Ah, c'est
un peu dommage que bon, on n'ait pas eu ce genre de segment. Voilà, ça sera
d'autant
flop, ouais. mon flop pour ce Raw, quoi. Mon top, je vais le donner à l'opener. Je vais le donner à la triple frite, comme tu aimes à dire. Et puis je vais le donner aussi en co-top. Je le donnerai à El Patronette pour sa traduction d'anglais et japonais pour le segment Becky Asuka.
T'es en train de me dire, mais c'est qui parle?
Non, mais vraiment, mon top va vraiment en priorité à l'opener. Drew McIntyre, Randy Orton et Jay Styles. C'était de la bombe bébé, c'était du bon catch, c'était comme il faut. Drew McIntyre, quel bel homme. Et voilà, et je dis bravo, bravo. Magnifique triple menace, voilà. Des openers comme j'en veux tous les lundis. Et ma note, je vais lui donner un 3,5 à ce row.
Ouais.
Voilà, un bon row et dans une bonne vibe ces dernières semaines.
Et, ouais, ouais, ouais.
Et pour moi, row est supérieur à SmackDown depuis plusieurs semaines. De toute façon, moi, je fais partie du camp de ceux qui pensent que SmackDown a beaucoup perdu depuis l'arrivée sur la Fox.
Ok, et ben écoute, pour moi, mon top, hein, j'en ai parlé, c'est évidemment cette séquence incroyable, R-Truth, Brock Lesnar et Paul Heyman, j'étais hilar d'un bout à l'autre. Mon flop, j'ai pas énormément de flop, à vrai dire, je t'avoue. Ah ben, je vais le refiler aux Viking Raiders, allez hop, hein, voilà. Non mais les mecs, ils insistent.
C'est cadeau.
Ah, ils insistent, ils sont chiants aussi. Et globalement, j'ai trouvé que c'est un épisode très solide parce qu'à part deux trois séquences un peu bof, un peu pas terrible, c'était plutôt solide quoi. Donc moi je mets un 3,75. On est vraiment sur un très bon épisode. Ça coche pas encore toutes les cases, mais ça commence
ah ouais.
fort, ça termine fort et c'était plutôt bien rythmé. Qui est de toute façon, ce qui était nul habituellement reste nul donc.
On est sur des bonnes notes à Raw ces dernières semaines, de toute façon.
Ouais. Non, franchement, j'ai pas vu le temps passer, toi, pour un épisode de Raw, ce qui veut tout dire.
Voilà.
Très bien, bah, c'est comme ça que se conclut notre double analyse de SmackDown et de Monday Night Raw. N'oubliez pas, si vous n'avez pas encore écouté nos Catch-Up Awards, nous avons décerné lors d'une glorieuse cérémonie le meilleur et le pire à la WWE en 2019. Et il y en a eu des choses à raconter, c'est un épisode généreux. De plus de 3 heures, mais avec une bonne partie de l'équipe. On a bien rigolé, pas mal d'anecdotes. Il y a eu des débats, des clashs, des affrontements entre les chroniqueurs. Tout le monde n'était pas d'accord. Voilà, donc n'hésitez pas à aller écouter cet épisode spécial qui récompense donc le pire et le meilleur de la WWE. Je te remercie, Chris. Toujours au rendez-vous pour nos analyses hebdomadaires.
Avec plaisir, El Patron. Mes hommages à El Patronette.
Bon, bah écoute, je le ferai, même si elle nous écoute, parce que non seulement elle me dit ce qu'il faut que je dise, mais en plus elle vérifie.
Check.
N'empêche, on vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite, avec notamment une analyse de Chris du takeover Blackpool Number 2.
Number 2, ouais.
Ouais, que j'ai là, que j'ai dans la boîte, il faut que je mette dans la boîte ça que je publie, donc je vais la balancer là après la publication de cette analyse. Voilà, ce sera cadeau, le petit cadeau de Chris pour bien démarrer cette année.
On commence avec NXT UK.
D'ici là, on vous souhaite évidemment, comme d'habitude, à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut.
Salut Yerem. Salut peuple de catcheur.
Ah, je te coupe, là, ça a sonné, je vais ouvrir la porte.
Ah, c'est peut-être Nikki Cross ?
Ouais, j'espère, à tout de suite.
Nikki, reviens ! Reviens ! Ah, bah ouais, parce que vous savez pas l'histoire, mais elle patronne a des entrées à la WWE quand même, et donc connaît personnellement des gens comme Nikki Cross, comme Alexa Bliss, comme le Dolph Ziggler, le Dolph Ziggler, imaginez, elle patronne est en cheville avec le Dolph Ziggler. D'ailleurs, on attend que Dolph Ziggler vienne un jour faire une apparition à Catch Up, qu'on puisse l'interroger sur différentes choses. Moi, j'aurais plein de questions à lui poser à Dolph Ziggler. Des questions à lui poser sur le ladder match qu'il avait livré à Luke Harper pour le titre intercontinental. J'aurais voulu qu'il me donne ses impressions sur le Money in the Bank match qu'il avait remporté brillamment, sur ses titres de champion du monde, sur qu'est-ce que ça a été d'avoir eu un temps Big E en enforcer avec Edgy Lee dans son camp, d'avoir eu Vicky Guerrero comme manager. Vous voyez, toutes les questions que j'avais à poser à Dolph Ziggler, c'était quand même quelque chose. Voilà, donc sur cette petite aparté, notre ami Yerem n'est toujours pas revenu. Alors le livreur, qu'a amené le livreur ? Peut-être une ceinture ? Qui sait ? Un t-shirt, ah oui, hein, il lui a peut-être ramené il se fait livrer un t-shirt The Man, voilà, un t-shirt Becky. Ou alors, autre possibilité, il vient de recevoir en fait un intégral de traduction français-japonais, le japonais pour les nuls. Ah ouais, ça peut être pas mal. Le japonais pour les nuls, pour notre ami Yerem. Ah, il nous abandonne au moment du top et du flop et de la note. Non mais vous voyez pas un peu comment c'est pas poli ça ? Non mais sérieusement là. Allez, reviens, Yerem, j'ai les mêmes à la maison, allez. Yerem ? Eh ben non, il a pas voulu.
Eh ben, de quoi il parle tout seul ou quoi ?
Ouais, j'ai meublé, j'ai parlé de Dolph Ziggler.
Ah, ben, je m'écouterai ça, peut-être que je mettrai ça en outro. Est-ce que tu penses à un truc qu'on peut mettre après le générique ?
Tu peux, tu t'écouteras, ça dure 2 minutes de toute façon.
Ouais, bah parce que on vient de me livrer mes tickets restaurant, dis donc.
Ah bah voilà. Bah moi je me demandais si on te livrait pas une option ou un truc, le japonais pour les nuls.
Salaud.